Bien, merci à vous d'être là ce soir. Bon, le sujet n'est pas très gai, il faut l'admettre. Je vais essayer, si vous en êtes d'accord, et en sachant que vous pourrez tout à l'heure faire des commentaires, bien entendu, et donner votre point de vue ou poser des questions, je vais essayer de vous dégager un petit peu quelques pistes de réflexion sur ce thème qui est en réalité beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Ça paraît simple, la question du suicide. Ça se pose finalement en ces termes. On dit, ben voilà, c'est pas dur. Le suicide, c'est quelqu'un qui un jour décide qu'il en a assez de vivre et qu'il met fin à ses jours. Et vous le savez, depuis longtemps d'ailleurs, philosophes, historiens, médecins, se sont un petit peu partagés, voire déchirés le sujet. Les uns considérant que le suicide, finalement, c'était l'expression suprême de la liberté humaine, qu'à la différence de bon nombre d'animaux, l'homme est en mesure de dire j'en ai assez de vivre, je veux que ça s'arrête et je décide de mettre un terme à cette vie. Et ça reste encore actif. Souvent, on entend parler du suicide en termes d'exercice de liberté. Et puis, à l'opposé, d'autres, surtout des médecins, qui disaient, mais non, c'est pas du tout l'exercice d'une liberté, c'est l'exercice d'une maladie. Il faut être malade pour avoir envie de se suicider. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se joue là-dedans. Puis entre ces deux positions, il y avait la position des gens de l'Église qui disaient, mais c'est interdit de se suicider parce que se suicider, ça revient à prendre la vie qui n'appartient pas à l'homme. La vie, elle appartient à Dieu. Reprendre la vie à Dieu, c'est exercer quelque chose contre lui et donc c'est interdit. Et pendant très longtemps, je ne sais pas si vous le savez, mais pendant très très longtemps, dans notre pays comme dans d'autres, l'Église a condamné le suicide au point d'ailleurs que les personnes qui se suicidaient étaient l'objet de punition, même après leur suicide. Par exemple, on interdisait leur enterrement en terre chrétienne, on promenait les cadavres dans les rues, on les exposait, on pendait parfois, deux fois le pendu, on promenait son corps sur des charrettes, enfin bref. Il y avait donc un certain nombre d'actions qui étaient tout à fait en vigueur. Et il arrivait même qu'on prive le mort, le défunt par suicide, qu'on prive sa famille de tous ses biens, qu'on les confisque. Et pour ceux qui ne mouraient pas, pour ceux qui tentaient de se suicider, ils pouvaient être condamnés à mort. Un paradoxe, si vous voulez. On a retrouvé des traces de personnes qui avaient été condamnées à mort parce qu'elles avaient essayé de se suicider. Alors, tout cela a disparu chez nous à la Révolution française, mais dans d'autres pays, y compris chez des voisins très proches, comme le Royaume-Uni, le suicide est resté interdit par la loi jusqu'en 1961. Donc, c'est pas si vieux que ça. Quand un jeune suicidant se réveillait d'une tentative de suicide, la première personne à l'examiner, c'était un policeman qui l'interrogeait par rapport au délit qu'il avait commis à travers cette affaire. Alors, une des attitudes assez habituelles, si vous voulez, et j'aimerais bien qu'on sorte de cette idée-là, c'est de dire, oui, mais tout ça, c'est dans les temps anciens, finalement, les gens se trompaient, les gens étaient idiots, il ne fallait pas faire ça, c'était des positions rigides, etc. Et il faut au contraire un peu tourner la page et considérer que les anciens se trompaient. Moi, j'ai envie de vous montrer ce soir que les anciens, s'ils ont adopté des positions aussi radicales, c'est qu'ils avaient peut-être accès, moins pour certains, à un sens plus profond du suicide. Alors, première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que le suicide, ça paraît être un mot ancien, parce que c'est construit sur le latin, on le voit bien tout de suite. Sui, soi, sid, le caedare, tuer, tuer soi. Et quand on prononce le mot, on croit que le mot appartient donc depuis toujours à nos langues et qu'il est issu du latin. Eh bien, il faut savoir que le mot, il est jeune. Mot suicide, il a été introduit par un prêtre au XVIIIe siècle, donc c'est pas, ça fait 2 siècles. Il a été introduit parce que ce prêtre, qui s'appelait l'abbé des Fontaines, considérait que le mot qui était jusque-là consacré à cet acte était trop fort. Et ce mot, c'était homicide de soi-même, meurtre de soi-même. Ça veut dire que ce que l'Église condamnait, c'était le meurtre de soi-même. Et si vous regardez des textes comme par exemple le texte Hamlet de Shakespeare, vous ne trouverez pas le mot suicide dedans. Vous trouverez le mot self-slaughter, qui littéralement signifie auto-abattage, auto-boucherie, auto-massacre, mais vous ne trouverez pas le mot suicide. Y a donc eu, contrairement, voyez-vous, à une opinion répandue, quelque chose qui s'est passé lorsque on s'est rendu compte qu'effectivement ce mot, enfin cette expression, meurtre de soi-même, homicide de soi-même, recélait quelque chose de trop fort, de sans doute trop percutant, et donc le mot suicide a été proposé par l'abbé des Fontaines, il a eu un grand succès, comme vous le voyez, puisque non seulement en langue française on l'a pris tel quel, mais les Anglais ben, l'ont pris aussi comme ça, et en diphtonguant le suicide, qui est devenu donc le mot consacré. Alors, pourquoi est-ce que je vous propose l'approche de cette question par ce biais-là? Parce que, en réalité, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la personne qui est animée de l'envie de se suicider, croit certaines choses, pense certaines choses, mais n'a pas accès à d'autres choses. En d'autres termes, quand on se suicide, on croit savoir ce qu'on vise ou ce qu'on veut, et en réalité, on ne le sait pas complètement ou pas totalement. Sauf à de rares exceptions près, mais qui sont beaucoup plus rares qu'on l'imagine, chez des personnes âgées, et ça a toujours été d'ailleurs comme ça. Depuis la nuit des temps, il y a des personnes âgées dont on peut dire que le suicide est un suicide de type philosophique, parce que ils ont vraiment été au bout de quelque chose, d'une démarche, d'une réflexion, d'une pensée, et ils ont, on pourrait dire, décidé de mettre un terme à leur vie, pratiquement en toute connaissance de cause. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la question du suicide philosophique, en ces termes-là, elle se pose extrêmement rarement. La plupart des suicidés ou des suicidants sont animés de quelque chose dont ils n'ont pas entièrement conscience. Et c'est ce que je vais essayer un peu de vous raconter ce soir. Alors, l'autre aspect qui est important avant qu'on rentre dans le détail, qui est important à prendre en compte, c'est que le suicide, ça a toujours existé. On a des textes qui montrent qu'effectivement, il a toujours été question d'un général romain ou grec ou autre qui met fin à ses jours parce qu'il a perdu une bataille ou pour cause de déshonneur, des choses comme ça. Mais c'est assez récemment qu'on a une évolution très importante du nombre de suicides. La période un peu charnière, si vous voulez, c'est autour des années 70. Et c'est intéressant parce que c'est aussi autour des années 70 que d'autres problèmes, d'autres troubles sont apparus de manière plus importante. D'une part, c'est depuis les années 70 que les chiffres du suicide ont beaucoup augmenté, et d'autre part, il y a quelque chose de très frappant, c'est que le suicide est pratiquement l'apanage des pays riches. Avec un gradient nord-sud, tout à fait considérable, absolument calqué sur l'économie d'ailleurs, c'est que les pays du nord sont toujours plus riches que les pays du sud, et bien on retrouve sur la carte mondiale, on retrouve ça, plus on va vers le sud, moins on se suicide. Et donc les pays qui ont les plus forts taux de suicide, c'est les pays qui sont dits développés, alors bien entendu on en fait partie, les pays européens, l'Amérique du Nord, quelques pays asiatiques, ceux qui sont riches, ont des taux de suicide très importants, alors que les pays pauvres ont des taux de suicide faibles. Et contrairement à ce que croient certaines personnes, ce n'est pas pour des raisons de biais statistiques, parce que les pays pauvres n'auraient pas les moyens de comptabiliser les morts par suicide. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. On sait qu'effectivement, il y a plus de suicides en Norvège qu'au Maghreb, et moins de suicides en Afrique, en Afrique noire qu'au Maghreb. Avec donc vraiment un gradient. Alors cette progression du nombre de suicides, elle est très importante depuis les années 70 jusque au milieu des années 80-90. Très très forte progression du suicide. Depuis les années 90, on voit les chiffres se stabiliser à la baisse. Une baisse modérée, cependant, mais une baisse quand même, des morts par suicide. Alors qu'on voit augmenter encore le nombre des tentatives de suicide, des gens qui ne meurent pas par suicide. Alors, cette diminution de la mortalité par suicide, elle est effective, mais il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que depuis 15 ans, la mortalité, toutes causes confondues, chez les Français, pour prendre l'exemple de notre pays, chez les jeunes Français en particulier, on va dire les moins de 40 ans, a considérablement diminué, puisqu'elle a diminué de 40%. On n'en parle jamais dans les médias de ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. 40% en moins de mortalité, toutes causes médicales confondues. Le suicide a diminué aussi, seulement lui, c'est le seul à n'avoir diminué que de 20%, soit moitié moins. En d'autres termes, si vous voulez, on meurt beaucoup moins de cancer quand on a moins de 40 ans aujourd'hui, par exemple, tu meurs au sens large. Mais le suicide diminue, mais diminue plutôt beaucoup moins que les autres causes de mort. Qui sont les suicidés? Les suicidés, c'est ceux qui sont morts par suicide. Et ceux qui sont morts par suicide, ils ont un profil assez particulier. C'est que ce sont d'abord et avant tout des hommes. Trois suicidés sur quatre sont des hommes. Donc, il y a une surmortalité chez les hommes qui est observée dans toutes les tranches d'âge et qui est liée à, bien entendu, une chose très importante, c'est que les hommes utilisent des méthodes très violentes et aussi très radicales. Les deux premières méthodes, de loin les plus utilisées dans la mort par suicide étant la pendaison et l'arme à feu, qui, ces deux modes-là, à eux seuls, sont responsables de 7 décès par suicide sur 10. Pendaison ou arme à feu, selon qu'on est dans une région de chasseurs ou pas, ça varie, c'est soit la pendaison en 1 et l'arme à feu en 2, mais enfin, en gros, c'est l'un ou l'autre qui est responsable de 7 morts par suicide sur 10. L'autre caractéristique du suicidé, non seulement c'est un homme, mais c'est un homme plutôt âgé. C'est-à-dire que les taux de suicide augmentent avec l'âge, ils sont assez faibles chez le jeune, et plus on avance en âge, plus ils augmentent. Seulement, là encore, il faut faire attention aux chiffres. Si le suicide est relativement faible chez le jeune, il est cependant une cause de mort très importante parce que les jeunes, par définition, ils meurent plutôt rarement. Et donc, bien que cet événement soit moins fréquent que chez le sujet âgé, le suicide du sujet jeune est aujourd'hui un problème véritablement de santé publique, puisque c'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route. Et vous vous en doutez, on parle des suicides à partir de certificats de décès qui sont établis par des médecins signifiant explicitement qu'il y a suicide, mais rien n'oblige un médecin à faire ça. Il y a donc une sous-estimation du phénomène, et on sait, à travers un certain nombre d'enquêtes, qu'environ 20% des accidents de la route mortels sont en réalité des suicides qui n'ont pas été reconnus comme tels. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça, c'est le, si vous voulez, on va dire le portrait robot minimum qu'on peut faire. Homme, plutôt âgé, et il y a une autre caractéristique qui est importante, c'est qu'il habite surtout en zone rurale ou semi-rurale. Les taux de suicide sont plus forts à la campagne qu'à la ville. Et il y a peut-être là aussi un lien entre la ruralité et le mode de suicide utilisé. Et il y a sans doute plus d'armes à feu en circulation à la campagne que dans les villes. En tout cas, c'est également une caractéristique qui est importante. Alors après, il y a des tas d'autres paramètres. Les autres paramètres, ils sont souvent très relayé par les médias. Ces paramètres, c'est le chômage, le divorce ou le veuvage. Et le fait est que, statistiquement, quand on regarde froidement les chiffres du suicide, on voit qu'effectivement, les personnes décédées par suicide sont surreprésentées dans ces catégories, si on peut appeler ça des catégories, les veufs, les retraités, les chômeurs. Les divorcés, il y a plus de suicidés parmi eux que dans le reste de la population. Mais méfiez-vous de cette analyse froidement statistique, parce qu'elle dit d'un côté une certaine vérité, comme on va le voir, mais elle masque en réalité en même temps les origines profondes du suicide, car rien ne permettrait d'expliquer pourquoi tel chômeur se suicide et pourquoi tel autre ne le fait pas, pourquoi tel veuf ou tel divorcé le ferait et pas tel autre placé dans une situation identique. Ce sont donc des paramètres qui sont indicateurs de quelque chose, mais qui sont seulement indicateurs et pas explicatifs. Du côté des tentatives de suicide, on voit un schéma tout à fait différent. Du côté des tentatives de suicide, on voit que depuis les années 70, ça ne cesse de progresser. Donc là, il n'y a pas de tendance à la diminution. Et ça concerne une population qui apparemment est différente de la population des suicidés, puisque presque point par point, on peut les opposer. Le portrait robot du suicidant, donc de la personne qui tente de se suicider mais qui en réchappe, c'est avant tout une femme ou une fille. Donc, déjà, au niveau du sexe, il y a une différence majeure. Trois filles ou femmes pour un homme. Deuxième caractéristique, c'est des personnes qui vivent surtout en milieu urbain, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Là encore, c'est le contraire, si on peut dire, des suicidés. Et puis, dernière caractéristique tout à fait importante, c'est que c'est majoritairement des jeunes. C'est-à-dire que les deux tiers des suicidants ont moins de 40 ans. Et donc, les chiffres, les taux de tentatives de suicide diminuent avec l'âge, alors que les taux de suicide augmentent avec l'âge. Et enfin, les méthodes utilisées sont très largement des méthodes, une méthode, qui est l'intoxication volontaire au moyen de médicaments, qui sont en grande majorité des médicaments psychotropes. Alors, en suivant un hit parade, entre guillemets, qui est tout à fait celui du commerce, les produits les plus vendus, et donc les plus à disposition des personnes, étant les produits les plus utilisés. Voilà, si vous voulez, de manière un peu schématique, comment se situe un petit peu la situation. Alors évidemment, vous l'imaginez bien, le problème qui se pose est de savoir pourquoi il y a ces constats, qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que ce qui, là aussi un peu contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce qui est assez caractéristique du suicidé ou du suicidant, c'est d'avoir un problème majeur du côté de l'identité. S'il y avait, si vous voulez, un dénominateur commun qu'on pourrait appliquer à toutes ces personnes, quelles qu'en soient les causes, ce serait d'avoir un grave problème d'identité. Je vais vous en donner quelques illustrations tout à l'heure. Ça, c'est un point très important. La plupart de ces personnes, quand on analyse leur situation, quand on essaie de comprendre ce qu'ils avaient dans la tête, on se rend compte qu'ils avaient un grave problème d'identité. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que, en dehors de ces rares cas de suicide philosophique de l'AG dont je vous parlais tout à l'heure, la plupart des suicidés ou des suicidants ont quelque chose à dire à travers leur acte aux autres. Ils ne disent pas « j'en finis avec la vie parce que j'ai plus rien qui me rattache à la vie », ils ne disent pas ça. Ils disent « je souffre trop, c'est insupportable, je veux que ça s'arrête ». Ça, c'est ce dont ils ont conscience. Ils ont donc parfaitement conscience du besoin très important de faire cesser quelque chose qui est insupportable pour eux. Et ce qui est insupportable d'ailleurs, c'est leur souffrance identitaire. Ça, ils en ont conscience. Ils utilisent d'ailleurs des moyens qui, peu ou prou, vise la tête pour cesser justement de souffrir, en se tirant une balle dans la tête, en se pendant la tête, ou en avalant des cachets pour dormir, c'est une manière d'anéantir la tête. Donc ils ont besoin de faire cesser leurs tourments, leurs souffrances, mais à leur insu, en même temps qu'ils sont animés de ce besoin de se soulager de leur souffrance, ils sont animés de pulsions extrêmement meurtrière à l'égard d'autrui. Ce qui d'ailleurs est révélé de manière très brutale dès qu'un assassin se suicide, par exemple. On voit bien quand même que, tiens, comme c'est étonnant que ces deux actes apparemment très différents soient si souvent associés. Le type même du forcené étant celui qui attend tout le monde avec son fusil à sa fenêtre, descend le premier policier qui vient et qui ensuite, comme le disent les médias, retourne l'arme contre lui-même. Et bien cette jonction-là, elle mérite vraiment d'être explorée. Parce que, effectivement, contrairement à ce qu'il prétend, le suicidé ou le suicidant, enfin le candidat au suicide, est quelqu'un qui est animé à la fois de l'envie de soulager sa souffrance et animé d'autre chose qui consiste à exprimer quelque chose à l'autre. Et je vais aller plus loin dans l'expression. C'est beaucoup plus qu'exprimer quelque chose à l'autre, c'est imaginer secrètement continuer à exister aux dépens de l'autre. Soit par vengeance, considérant qu'on se suicide et que, après tout, après les autres n'auront plus qu'à se débrouiller de ça, soit dans la plupart des cas, sans qu'il y ait réellement une volonté froide de vengeance, mais avec le secret espoir que ces questions identitaires, ces problèmes identitaires que l'on a de son vivant, on va en quelque sorte les résoudre en se tuant et en infligeant ainsi à ceux qui restent les tourments des raisons pour lesquelles on s'est suicidé. En d'autres termes, le plan, si je puis dire, secret du candidat au suicide, c'est de se tuer pour survivre dans la tête de ceux qui restent, pour les marquer à jamais, pour imprimer leur tête de manière définitive, pour devenir un pur fantôme, débarrassé de toute corporéité, puisque le corps a été déchiqueté ou complètement démoli, pour se débarrasser de son existence corporelle, mais pour trouver une identité terrible en existant comme un fantôme en tant la mémoire de ceux qui restent. Alors j'espère que je ne vais pas vous faire faire de cauchemar, mais je voudrais que vous compreniez bien ce que je veux dire. Quand vous regardez les circonstances d'un suicide, vous verrez qu'il y a deux solutions. Soit le suicide est mis en scène d'une manière extrêmement spectaculaire. Personne se jette du 15e étage sur la place où des tas de gens circulent, au risque d'ailleurs d'en tuer quelques-uns, ce qui arrive régulièrement, bien entendu. Donc là, on voit bien encore que le meurtre de soi-même, il comporte aussi quelque chose de meurtrier à l'égard d'autrui. On peut tuer l'autre. Au début de la cité administrative, une personne qui s'est défenestrée, elle a tué trois personnes en se tuant. Il y a donc quelque chose là de terriblement spectaculaire, hein, au sens plein du terme, c'est-à-dire sous le regard de l'autre. Soit c'est le contraire, ou en tout cas ça ressemble au contraire, c'est-à-dire que le plan du suicidaire consiste à se suicider en faisant simplement tâche dans un environnement qui paraît habituel et qui paraît normal. L'exemple type que je voudrais vous livrer, le cas de ses parents, d'un adolescent de 18 ans qui s'est suicidé, qui sont venus me voir il y a quelque temps, parce que 2 ans après le suicide de leur fils, ils étaient complètement possédés par, effectivement, la présence de ce mort. Ils étaient constamment en train de se demander qu'est-ce qu'ils n'avaient pas vu, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas fait, en quoi ils étaient coupables, etc. Enfin, ils étaient rongés par la culpabilité, sans avoir conscience que, justement, c'était un espoir secret du mort que de continuer à exister, à survivre, en quelque sorte, en leur infligeant tous ces tourments. Et quand je leur ai demandé de m'expliquer, 2 ans plus tard, les circonstances de la découverte du corps, ils m'ont raconté quelque chose de typique et de terrible, précisément qui appartient à cette deuxième catégorie du non-spectaculaire, si l'on peut dire. Appelons leur fils Jérémy, 18 ans. Jérémy était déscolarisé, il ne fichait plus rien, et il passait son temps avachi sur le canapé du salon en train de regarder la télévision du matin au soir. Il ne faisait rien d'autre. Et les parents se lamentaient de voir leur fils ne rien faire, ne voulant s'inscrire dans rien. Voilà. Et donc, régulièrement, ils se disputaient avec lui, ils se fâchaient, ils lui disaient « Écoute, ça commence à bien faire, Jérémy, on va te couper les vivres, on va couper la télévision, ça va pas, ça ne veut pas continuer comme ça. » Et puis, de dispute en dispute, la situation ne s'améliorait pas. Et un jour, les parents ont été invités à manger chez des amis un soir. Ils rentrent vers 11h, ils ouvrent la porte, et dès l'entrée, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient les couleurs du poste de télévision allumées, le son de la télé. Évidemment, comme d'habitude, Jérémy est avachi devant la télé. Et bien entendu, ils en ont la confirmation en avançant de quelques mètres, en voyant les baskets de Jérémy dépassé du canapé, il est là, comme d'habitude, à ne rien faire, à regarder la télé. Le père de Jérémy, une fois de plus, s'énerve, hurle, ça commence à bien faire maintenant, tu vas te coucher, tu pars te coucher, on en a marre d'avoir un moins que rien qui reste à ne rien faire. Ils s'avancent un peu, ils arrivent dans le salon, et là, un détail, un seul détail, les frappe. Sur le poste de télé, sur l'écran, il y a un bout de cervelle qui dégouline. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il se retourne vers Jérémy et qu'il voit que Jérémy n'a plus de tête. Jérémy, sans le savoir, s'est suicidé d'une manière telle, à organiser en quelque sorte, si vous voulez, sa mort, d'une manière pas spectaculaire comme d'autres, pour autrui, spectaculaire pour ses parents. Parce qu'il a choisi de le faire là où il avait toujours l'habitude d'être. Et c'est cette image-là qui frappera à jamais les parents et qui, 2 ans plus tard, les laisse encore dans le malheur, avec des tas de questions, parce que bien sûr, Jérémy n'a pas laissé de lettre d'adieu, il n'a pas expliqué quoi que ce soit. Et quand bien même, comme d'autres, il l'aurait fait, quand on regarde ce que contiennent les lettres d'adieu, on s'aperçoit que c'est un tissu de dénégation qui, justement, à cause de la dénégation, en sont insupportables. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on vous demande « est-ce que vous êtes homosexuel ?», vous répondez normalement « oui » ou « non ». Vous ne répondez pas « surtout pas ». L'insistance à dire non de quelque chose vient au contraire exprimer quelque chose de douteux ou quelque chose qui n'est pas clair. Eh bien, les lettres d'adieu de suicidés sont des tissus de dénégation. Alors ça ressemble à ça. Chers parents, ne m'en veuillez pas. Et ne m'en veuillez pas, déjà, ça commence bien. Ne m'en veuillez pas, je suis bien mieux là où je suis. Faites pour le mieux. Mon blouson, donnez-le à Mathieu. Mes 3 cassettes de je ne sais quoi, donnez-les à Agathe. Et faites un petit signe à un tel. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Jérémy. Vous voyez, ce serait ça, une lettre de suicidé. C'est-à-dire quelque chose qui prétend soulager la douleur de l'autre. Et consciemment, bien sûr, c'est ce que voudrait le suicidé. Parce qu'il n'est pas animé de mauvaises intentions, de façon froide et déterminée, comme ça. Il croit soulager ses proches, et en réalité, il les enfonce. C'est ça qui est meurtrier, voyez-vous, dans le suicide. C'est donc pas du tout, contrairement à ce que disent les philosophes, l'exercice suprême de la liberté. Ou alors, il faut dire, c'est l'exercice suprême de la liberté aux dépens des autres. Et la liberté aux dépens des autres, si vous voulez, ça s'appelle l'asservissement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important à prendre en compte. C'est quand vous discutez avec des personnes qui sont animées d'envie de suicide, si ça vous arrive un jour, retenez ça et essayez, au moment où les gens vous parlent de ça, d'entendre le fiel qu'il y a dans leurs propos, une sorte de rage qui n'a pas d'ailleurs forcément un destinataire très précis qui est visé, mais toujours, toujours, il y a un destinataire. Et toujours, il y a ce secret espoir d'exister davantage au détriment de ceux qui restent. Alors, ces questions identitaires, c'est quoi ? Ben, ces questions identitaires, ça peut être des tas de choses. Ces questions identitaires peuvent, bien entendu, même si ce n'est pas le cas le plus fréquent, appartenir au registre de la maladie mentale. Voilà effectivement un domaine où on peut avoir des raisons d'avoir des troubles de l'identité majeurs. Quel genre ? Ben, la schizophrénie, par exemple. Un schizophrène a 35 fois plus de risques de mourir par suicide avant l'âge de 30 ans que n'importe quelle autre personne. Et là, voyez-vous, les statistiques froides du type veuf, divorcé, chômeur, etc., ne résistent pas à ce genre de choses. Les schizophrènes sont très menacés par le suicide. Et justement, ils ont des difficultés identitaires tout à fait importantes. Les dépressifs au sens psychiatrique du terme, hein, pas les gens qui sont déprimés un petit peu, les gens qui sont foncièrement dépressifs, qui sont atteints de maladies dépressives, sont des gens qui ont des taux de suicide très importants. Et d'ailleurs, il y a des familles, malheureusement, où il y a sans doute un caractère héréditaire à certaines formes de dépression, puisqu'il y a incroyablement certaines familles qui sont frappé presque à chaque génération par plusieurs suicides. Mais ce n'est pas les causes les plus fréquentes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre dépressivité et dépression véritable. On ne se suicide pas en chantant, hein, généralement, la dépression ou la schizophrénie ne sont pas les causes les plus importantes d'une fin comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre raison ? Une autre raison qui frappe l'identité, c'est quand on a le sentiment de plus exister pour les autres, d'être rayé de la liste des gens. Et qu'est-ce qui peut amener à ce genre de situation ? Par exemple, l'incarcération en prison. Et le fait est que le suicide est un facteur de mort très important en prison, chez les prisonniers. Pas à n'importe quel moment d'ailleurs de leur emprisonnement. Au début de leur emprisonnement, ou bizarrement, à la fin de l'incarcération. Il est rare que les détenus se suicident en plein milieu de leur détention. Ils se suicident au début, quand ils perdent l'identité, quand ils ont l'impression qu'ils sont finis, fichus, tout le monde va les quitter, tout le monde va les abandonner. Ou bien, presque au terme de leur incarcération, lorsqu'ils ont peur de revenir dans la vie civile et peut-être de ne pas retrouver une identité supportable. Mais le suicide en prison, c'est une réalité tous les jours. Vous l'entendez dans les médias de temps en temps. C'est quelque chose d'important, avec beaucoup de difficultés pour les gardiens de prison à prévenir ce genre de choses, parce que c'est une autre caractéristique du suicide. On peut se suicider avec pas grand-chose, figurez-vous. Il y a des gens, il y a des détenus qui se suicident avec un sac en plastique sur la tête. Il y a des suicides, des pendaisons à un simple lavabo. Il y a des choses tout à fait incroyables. On a même vu, j'ai même vu le cas au Tripode ici, d'un détenu qui s'était suicidé en perforant des piles d'un transistor. Vous voyez, donc tout moyen peut être utilisé. Voilà donc une autre raison possible de troubles de l'identité. Mais l'avancée en âge dans nos sociétés occidentales, avec le sentiment de ne plus compter du tout pour les autres, le sentiment qu'on a atteint l'âge de la retraite, alors on ne vaut plus rien, on n'est plus un actif, avec les enfants qui sont loin ou qui sont pris dans leur logique professionnelle, qui n'ont plus le temps. Donc la situation d'abandon, si vous voulez, des vieux, est bien sûr un facteur d'altération de l'identité et de suicide, et ça explique bon nombre de suicides chez l'âgé, bien plus que le cancer. Contrairement à ce que croient les gens. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les gens cancéreux vont beaucoup se suicider. Ben moi, je vais vous livrer une information incroyable. La zone la moins suicidogène de Bordeaux, c'est le centre Bergonié. Alors que là, on devrait avoir normalement, si vous voulez, une fréquentation de gens quand même assez menacés d'un point de vue vital. Eh bien non, justement. Justement, les gens menacés dans leur vie sont en réalité dans une attitude de combat pour la vie qui les amène à se battre, même si les carottes sont cuites. Et on en a des preuves adjacentes, si je puis dire, qui sont intéressantes. J'avais fait faire il y a quelques années une thèse à un étudiant sur le suicide dans les camps de concentration. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, le suicide dans les camps de concentration était un événement très rare, alors même que les conditions dans lesquelles étaient les gens étaient intolérables et que les moyens de se suicider étaient assez faciles à obtenir, puisqu'il suffisait soit d'aller s'électrifier sur les barbelés qui étaient disposés là, soit de se faire tirer dessus par un soldat. Rareté du suicide dans les camps de concentration. Rareté du suicide dans les situations de survie. Et rareté du suicide lorsque la vie prend le pas sur tout le reste. Et ça concerne des personnes qui ne sont pas malades. Ce sont les femmes enceintes. La seule période où l'homme, en l'occurrence la femme, est très protégé du risque suicidaire, c'est entre le troisième mois de grossesse et l'accouchement. Il y a très très peu de suicides pendant cette période-là. Il y a des suicides éventuellement avant ou après, mais il n'y a pas de suicide pendant la période de grossesse. Je ferme la parenthèse. Voilà donc des raisons identitaires. Autre raison identitaire qu'on retrouve beaucoup, c'est des situations qu'on pourrait qualifier d'explosion identitaire lorsqu'elles n'ont pas été suffisamment préparées. Et il y a un sujet qui est presque un sujet d'actualité en ce moment. On parle d'adoption de petits enfants du sud-est asiatique et où, à juste titre, les gens semblent en tout cas assez prudents et réservés dans l'ouverture large et sans contrôle de l'adoption. Il faut que vous sachiez que il y a une configuration de l'adoption qui comporte un risque suicidaire à l'adolescence et, on va dire, avant 30 ans. Cette configuration est la suivante. Il faut un cocktail de ce type. On prend des gens, un couple, qui n'a pas d'enfant. J'insiste sur cet aspect, parce que l'adoption lorsqu'on a déjà des enfants, ne se distingue pas du point de vue du suicide des autres. Là, il s'agit d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Ce couple ne peut pas avoir d'enfants et pendant des mois ou des années croit que la science va lui permettre de pouvoir concevoir un enfant. Jusqu'au jour où on leur dit, ben non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Il faut vous résoudre à adopter. On a donc là un couple blessé d'emblée dans son identité de géniteur potentiel. Maintenant, de l'autre côté, il faut un adopté. Les adoptés, comme vous le savez dans notre pays, ils sont plus faciles à obtenir dans les pays où il se passe des choses terribles, des guerres, des famines, des situations tout à fait terrifiantes. Et il faut très souvent qu'ils soient arrivés de grands malheurs à leurs propres parents ou à leur famille pour qu'ils soient adoptables. Il est plus facile d'adopter un petit du sud-est asiatique qu'un petit de Libourne, voyez-vous, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et ces petits, entre le moment où on les prend en photo et où ils sont à vendre, hein, pour un certain nombre d'entre eux, en ce moment j'ai une jeune fille dans mon service, elle a été vendue, carrément. Ils sont à vendre ou à exposer, et le temps que les démarches soient faites, ils grandissent dans des orphelinats qui ne sont pas toujours choisis dans la manière dont on traite les enfants. Et c'est donc déjà assez grandet, et en ayant déjà vécu beaucoup de traumatismes, comme par exemple avoir vu sa mère se faire décapiter sous ses yeux, ou son père se faire mitrailler par la milice, qu'un enfant, à l'âge de 5 ou 6 ans, va rencontrer autre blessé, si je puis dire, qui va rencontrer ce couple d'adoptants. Sur le coup, ces deux genres de blessés vont plutôt se réparer ensemble. Et c'est, on pourrait dire, la lune de miel de l'adoption. Ils vont assez bien se passer. L'enfant va s'adapter bien. On constate d'ailleurs qu'en quelques mois, il apprend, on va prendre le cas d'une petite jeune fille asiatique, elle s'appelle Magali, elle grandit, elle a 6 ans. On se demande même si on ne va pas lui faire sauter une classe, tellement elle est bonne à l'école. Le petit détail quand même, c'est que tous les jours, la petite Magali, elle entend de la part de ses petits camarades des choses du genre: dis donc, Magali, pourquoi t'es toute jaune et pourquoi tes parents, ils sont pas jaunes? Tous les jours, elle entend ça. Et Magali, elle grandit, elle se surinvestit dans la scolarité. Les enfants adoptés sont souvent plus brillants que la moyenne, jusqu'à l'arrivée dans l'adolescence. Et au moment de l'adolescence, de deux choses l'une. Où les parents adoptifs ont été préparés à une tempête plus sévère que d'ordinaire. Ils s'y sont préparés, ils sont assez souples dans leur tête, ils se sont réparés suffisamment, l'orage va leur passer dessus, mais ça va aller. Ou bien, ils vont rester blessés dans leur identité de parents, et ils vont prendre très mal les attaques dont ils vont faire l'objet, qui sont des attaques d'adolescents. Tous les adolescents attaquent leurs parents, mais là avec force 12, hein. Quand votre enfant, à vous, vous dit « Tu m'as trouvé dans une poubelle, j'en suis sûr », vous pouvez en rigoler, parce que vous savez très bien que c'est pas vrai. Quand c'est vrai, si vous voulez, ça fait pas pareil. Il y a donc à ce moment-là des crispations relationnelles qui sont extrêmement importantes, et des crispations identitaires qui font que l'ado adopté va se mettre à camper sur des positions incroyables. Il veut plus de ses parents-là, il veut ses vrais parents, il veut aller les retrouver, il veut s'en aller demain en Corée, il veut, etc. Enfin bon. Et les parents qui se rétractent et qui se sentent attaqués, en quelque sorte, une deuxième fois, après avoir été attaqués par le fait de ne pas pouvoir faire des enfants, les voilà attaqués sur le fait de mal élever leurs enfants. Parce que ces adolescents adoptés se comportent d'une manière extrêmement bondissante et agissante. Je connais des cas stupéfiants, si vous voulez. La jeune fille a 13 ans, elle est violée par les forains. Quand elle n'est pas violée par les forains, elle vend de la drogue à son collège. Quand elle ne vend pas de la drogue au collège, elle roule en mobylette sans casque. Enfin, tout et n'importe quoi pour se faire remarquer, pour trouver une identité, fût-ce dans le négatif. Et là, il y a un cocktail extrêmement explosif qui fait qu'on a très souvent, nous, des situations à prendre dans ce contexte et qui nous font penser que, ben, il faudrait davantage préparer les associations de parents d'enfants adoptés, devraient les aider, ces parents, au moment de l'adolescence, en tout cas, au moment de la jeunesse de leur enfant, parce qu'il y a vraiment là des risques de crispation identitaire tout à fait majeurs. Mais il y a d'autres circonstances où on n'a pas ça, où on n'a pas des parents blessés, on a un enfant qui a été lui-même blessé. Comment est-ce qu'un enfant peut être blessé? Ben, de plusieurs façons. Il peut avoir été blessé dans son enfance par des violences sexuelles dont on sait qu'elles constituent vraiment un ferment suicidogène majeur à l'adolescence. Une jeune fille sur trois qui rentre dans mon service a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Ça, c'est un traumatisme identitaire, si vous voulez, qui est tout à fait important. L'inceste, les violences sexuelles à enfants représentent de véritables bombes à retardement. Mais il y a encore d'autres circonstances traumatiques. Circonstances traumatiques, c'est lorsque, là encore, il y a du meurtrier dans l'air. Comme quoi, par exemple? Comme la jeune Estelle, qui a 13 ans, et qui, à table, se fait entendre de la part de son père, à longueur de repas, alors, Estelle, Alexandre, il embrasse bien. Ah, dis donc, t'as les seins qui poussent, mais c'est de plus en plus, tu vas avoir une jolie poitrine. Estelle, elle est attaquée par ces remarques paternelles qui viennent la caresser dans le mauvais sens du poil. Et donc, Estelle, elle finit tous ses repas en rage, elle part dans sa chambre, elle déchire des feuilles, elle déchire les photos de son père, elle lui souhaite de mourir. Le lendemain, le père, qui est représentant de commerce, se tue en voiture. Estelle va s'attribuer la cause de la mort et va penser qu'elle a tué son père. Voilà encore une autre situation extrêmement traumatique. Il y en a encore une autre. Il y a celle d'un jeune garçon ou fille dont la maman est atteinte d'un cancer qui dure. Elle est malade, la maman, pendant toute l'adolescence de l'enfant. Et l'enfant culpabilise de voir sa mère malade et ne peut pas se comporter avec autant d'opposition et de vivacité que si sa mère était bien portante. Il ne peut pas lui dire, espèce de vieille morue, tu m'embêtes. C'en est déjà une parce qu'elle est malade. Comprenez? Donc ça crée encore des tensions qui sont très importantes, c'est-à-dire chaque fois que l'agressivité naturelle ne parvient pas à s'exprimer, ne parvient pas à être contenue, ou en tout cas métabolisée d'une manière familialement et culturellement acceptable. Et puis il y a une autre situation de pulvérisation identitaire, c'est la situation de famille où les choses se reproduisent. C'est-à-dire que, en fait, l'adolescent ou le jeune se rend compte, enfin en tout cas ressent, que ses deux parents n'ont pas assez grandi dans leur tête pour ne pas se mettre même en vrille, en quelque sorte, par rapport à leur propre adolescence. Et on voit donc des gens qui étaient en difficulté identitaire quand ils étaient jeunes, qui ont colmaté les brèches pendant un temps de leur âge adulte. Le temps que leur enfant était petit, ils ont pu se donner des rôles et un statut, une identité qui leur permettait d'exister. Et à partir du moment où leur enfant grandit et réclame en quelque sorte son autonomie ou son émancipation, ils sont ramenés à leur trou identitaire. Et à ce moment-là, eux aussi rentrent en vrille. Alors là, on a des familles, nous, où on a au téléphone des gens qui se suicident à longueur de semaines. vous avez par exemple la jeune fille est hospitalisée pour tentative de suicide. Quelques jours après, elle est hospitalisée, son père l'appelle, elle décroche, et son père lui dit, appelons-la Muriel, Muriel, je te signale que je vais me pendre ce soir. Alors la gamine va au fond de sa chambre, prend une lame de rasoir et commence à se tailler les veines. La mère est appelée par les infirmières parce qu'elle s'est fait une plaie, et la mère part dans la pharmacie et avale tous les cachets. Et le lendemain, on retrouve tout le monde à l'hôpital. Ils sont tous en train d'essayer de se suicider. Alors oui, ça fait un peu rire, parce que c'est vrai que c'est caricatural, et il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces familles-là, chacun s'envoie à la figure son suicide pour tenter de se faire reconnaître par l'autre. Mais c'est tellement un dialogue de sourds qu'effectivement, ils sont amenés à une espèce de surenchère, si vous voulez, qui fait qu'ils passent à l'acte les uns contre les autres, etc. Alors, c'est caricatural dans le cas de suicides, on va dire, un peu collectifs ou familiaux, comme ça, mais c'est très fréquent lorsque vous avez quelqu'un qui tente de se suicider, l'entourage se sent attaqué par cette tentative de suicide, l'entourage n'est pas en mesure de prendre assez de recul pour entendre la souffrance identitaire que ça suppose, ça met l'entourage en vrille d'emblée sur le plan identitaire, et là, il passe à l'acte. Alors, par exemple, comment ? Par exemple, comme je l'ai vu plusieurs fois, un jeune est hospitalisé ici, à l'hôpital Pellegrin, pour tentative de suicide médicamenteuse. Le lendemain matin, on essaie de joindre les parents, ils sont injoignables. Parce qu'ils ont décidé que pour lui faire payer, ils allaient la laisser quelques jours à l'hôpital. Vous voyez le genre ? Donc il y a des passages à l'acte comme ça qui sont envoyés des uns vers les autres et qui, évidemment, n'arrangent rien, puisque au bout du compte, chacun est en crise identitaire, chacun est en souffrance, et on a, nous, les tiers, on va dire, affaire à une sorte de mise en relief, une sorte de, voyez-vous, comme une sorte de boule de neige qui grossirait au fur et à mesure qu'elle descend la pente, c'est-à-dire toute une famille qui devient suicidaire, et on a même parfois des fratries qui ont le sentiment qu'on s'intéresse tellement plus à la sœur aînée depuis qu'elle tente de se suicider, qu'on va faire pareil. Il y a donc des frères et sœurs qui vont partir sur le chemin suicidaire parce que ça semble être le seul moment où les parents ont l'air de faire attention, de prendre en considération les problèmes. Voilà ce que je voulais, de manière un peu générale, vous dire avant de vous laisser la parole. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Si vous acceptez l'idée que j'ai essayé de vous faire passer aujourd'hui, que finalement le drame du suicide s'inscrit toujours d'abord et avant tout dans une souffrance identitaire, la seule vraie façon de prévenir le suicide, c'est de restaurer l'identité de l'autre. Et comment est-ce qu'on restaure l'identité de l'autre ? On restaure l'identité de l'autre en le reconnaissant dans sa souffrance, sans jamais l'ignorer, sans jamais banaliser ce qu'il dit ou ce qu'il fait, sans jamais le mettre au défi de faire ce qu'il menace de faire, en le reconnaissant comme quelqu'un qui est en souffrance et qui ne parvient pas à se sentir exister aux yeux des autres. Tout ce qui permet d'exister davantage, d'être davantage reconnu par les autres, d'avoir une place, d'avoir une position, d'être reconnu dans cette place et cette position, peut être tout à fait préventif du suicide, bien au-delà des actions médicales ou paramédicales. Merci de votre attention.